Nous sommes en direct sur RCC et on est très heureux de retrouver une voix qu'on a connue à la radio puisque elle venait de nous parler de diététique. C'est Marie-Madeleine Mussandriani. Marie-Madeleine, bonjour.
Bonjour Anto, bonjour à tous.
Comment on va?
Très très bien.
Depuis le temps.
Waouh, ben oui. Hein.
Alors, ce matin, tu t'es décidé à te promener dans la citadelle.
Bah, oui,
et tu as vu la porte de la radio.
C'est ça, je me suis pointé. Je me suis dit, ah, il y a peut-être. J'ai vu de la lumière et j'ai dit, tiens, il y a Contamé, il y a Anto.
Tu as bu un café.
Voilà, en charmante compagnie.
Voilà. Et ben écoute, on est vraiment très très heureux de t'entendre, de te voir, de t'écouter à la radio aujourd'hui, pour que tu nous parles de ton expérience niçoise, parce que depuis maintenant combien de temps tu es installé à Nice?
Écoute, je suis parti en 2010, donc ça
D'accord.
va faire bientôt 11 ans. Voilà,
ça passe vite le temps.
Oui, oui, oui. Tu as vu, on n'a pas changé en
C'est
tout.
Vrai.
Hein.
Hein toujours aussi beau.
Tu n'as pas changé. Et voilà, donc je me suis installé. Alors, ça s'est fait en deux temps. Donc, oui. Quand je suis arrivé en 2010, donc j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc, j'ai ouvert un cabinet, donc avenue Jean Médecin. Pour ceux qui connaissent, c'est une avenue assez sympa. Et après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le centre hospitalier de Puget-Théniers. Alors, que je t'explique, Puget-Théniers, c'est dans l'arrière-pays niçois.
Oui.
C'est le dernier village du 06. Ça ressemble, alors, il y a des similitudes avec l'hôpital de Calvi, tu vois. Il y a des délits médecine, du SSR et tout ça. Donc, très intéressant. Et ce qui était intéressant dans ce poste, c'était qu'il était aussi jumelé avec une petite EHPAD. Alors, c'était dans le 04, c'est le village d'Entrevaux, un très, très beau village médiéval. Tu as une très belle citadelle avec un pont-levis, une petite école maternelle et une école primaire. Et voilà, donc j'ai travaillé sur les deux structures. Donc, je brassais à peu près 250 résidents et je m'occupais des menus de la cantine scolaire. Donc, c'était vraiment plaisant. Voilà, les gens très attachants. Et il y avait beaucoup de Corses là-haut en plus.
Alors, quand tu étais à Calvi, tu avais ton cabinet de diététicienne. Mais est-ce que tu intervenais déjà dans des structures annexes ou à côté?
Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais intervenu à l'âge d'or. La petite, après, tu sais, il y a malheureusement en Balagne, les EHPAD, les maisons de retraite, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord.
L'hôpital de Calvi, il n'y avait pas les lits de long séjour et tout ça, donc c'était un peu limité. Donc, je faisais beaucoup de prévention dans les collèges, les primaires et tout ça, pour tout ce qui était obésité infantile. À l'époque. Et après, on me demandait des missions. Je sais qu'à l'époque, j'avais fait des menus pour les pompiers. C'était très sympa. Pour le centre aéré, pour équilibrer les menus. Voilà. Donc, j'intervenais plus dans les scolaires. C'était plus les enfants. La spécificité de la population, c'était plus les jeunes et les adolescents. Et parce que malheureusement, il n'y avait pas de maison de retraite et d'EHPAD, à part l'âge d'or à Île-aux-Rousse, pour intervenir dans les EHPAD.
Alors, comment s'est faite la bascule entre, disons, Calvi, où tu avais donc ces... D'abord ton travail de diététicienne au cabinet et ensuite ces petites missions à côté, à quelque chose de quand même beaucoup plus important.
Tout à fait. Mais écoute, le métier de diététicienne, c'est très vaste. C'est pas que, on fait pas que de la consultation, on intervient dans plusieurs domaines, même dans la recherche. Hein. Et moi, c'est vrai que c'est lié à mon histoire personnelle. Hein. J'ai perdu mes grands-parents très jeunes. Et je suis très attaché à la personne âgée. Et voilà. Et c'était tout à fait une opportunité. Je me trouve vraiment dans mon élément. Hein, j'adore cette population. Il nous apprend beaucoup. Hein, on apprend, on n'arrête pas d'apprendre avec ces gens-là. Et puis bon, voilà. C'est lié à notre culture. Tu sais qu'on est, on a le respect de la personne âgée. C'est ça. Donc, quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Et ça m'a permis aussi d'évoluer puisque en 2017, en 2012, j'intègre ce groupement. Donc, alors, le métier de diététicienne dans les EHPAD, c'est très intéressant.
Oui.
Donc, mis à part la mise en application des régimes qui sont en général prescrits par les médecins, mais tu sais, à partir d'un certain âge, les régimes chez la personne âgée, on les met plus parce que c'est régime diabétique et tout ça, ça sert à rien. Hein. On limite juste, mais c'est surtout les textures modifiées parce que malheureusement, cette population a des problèmes dentaires et on est obligé d'adapter la texture. Donc, on passe de normal, haché, haché tendre, tu vas mixer lisse, liquide, voilà. Donc, c'est notre rôle. Et en général, on travaille avec un orthophoniste parce que nous, on s'occupe de la mastication et l'orthophoniste s'occupe de la déglutition. Alors, moi, j'ai reçu une petite formation spécifique à la déglutition pour pouvoir poser des fois les diagnostics quand on n'arrive pas à trouver un orthophoniste parce que c'est compliqué. Et voilà. Et après, je coordonne donc les soins avec les équipes. Je forme les équipes parce que le but, une fois que la décision a été prise de changer de texture et tout ça, il faut que le résident, par le biais de la cuisine, dans le circuit du repas, eh bien, la cuisine comprenne bien l'information et après le personnel, donc les aides-soignantes, les infirmières et tout ça, les agents de restauration, eh bien, donnent le bon plateau à la bonne personne.
Ah oui,
et ça, c'est le rôle de la diététique. diététicienne. D'accord. Et comme il y a beaucoup, malheureusement, de turnover en ce moment, surtout avec le Covid, eh bien, le rôle de la diététicienne, c'est de former tout ce personnel. C'est un peu un chef d'orchestre pour que le résident ait la bonne texture et le bon régime au bon moment. Voilà.
Donc là, tu interviens dans 3 EHPAD.
Alors, en 2017, le groupe, le centre hospitalier d'Antibes intègre le centre hospitalier de Puget-Théniers, le centre, la petite EHPAD d'Entrevaux et le pôle santé de Vallauris. Et moi, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est l'aventure. Moi, je suis une aventurière. Et comme ça se fonctionnait très, très bien à Puget-Théniers et Entrevaux, j'ai voulu partir pour d'autres aventures. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. On m'a proposé le pôle santé de Vallauris. Donc, j'ai, dans un premier temps, travaillé dans le pôle santé de Vallauris. Alors, c'est une EHPAD, c'est une des plus grandes EHPAD de la région PACA. Il y a 250 résidents. Et ce qui est bien, c'est que on a une unité Alzheimer. Ça s'appelle un UP, c'est une unité protégée, où on peut donc prendre en charge de façon vraiment optimale le résident. Parce que l'Alzheimer, la spécificité du résident, c'est il déambule. Tu sais, il reste toujours. Il ne mange pas assis comme nous. Il n'a pas d'horaire. Et donc, il y a toute une prise en charge spécifique. On lui doit mettre à disposition des petits repas, des petits sandwichs et tout ça. Et on doit aussi adapter les textures. Donc, on est passé au manger-main. Tu vois, c'est très à la mode depuis 10 ans.
L'hamburger.
Et aussi. Voilà, éventuellement, ou des petites boulettes. Ou des... Ouais. Mais quand c'est des textures modifiées, eh bien, tu dois modifier ces textures. Ouais. Donc ça, j'ai intégré Vallauris. Et ensuite, là, je voulais vraiment descendre sur le littoral. Donc, j'ai intégré le centre hospitalier d'Antibes. Mais je ne travaille, je suis pas au centre hospitalier, je ne travaille que dans les 2 EHPAD. D'accord. Donc, il y a la première EHPAD qui s'appelle La Fontaine, qui brasse à peu près 200 résidents. Et la petite EHPAD Thiers, qui est vraiment au centre-ville. Ça, c'est bien pour les gens qui n'ont pas de voiture et tout ça, qui y a à peu près 70 résidents.
Voilà. Et à côté de ça, tu as toujours ton cabinet de diététicienne
libérale. Alors, j'ai gardé, ouais, j'ai gardé parce que j'adore le libéral. Et puis, dans la libérale, tu as liberté. Et moi, j'aime bien prendre en charge. Et puis, tu sais, dans le libéral, tu peux prendre le temps, ce que tu ne peux pas forcément faire quand tu es hospitalière.
Ah oui,
donc, ouais, j'ai gardé un jour et demi en libéral. Je travaille le vendredi après-midi et le samedi. C'est très demandé le samedi, hein, puisque les gens travaillent tout au long de la journée, en cabinet. Voilà. Et là, je vois toutes les pathologies que j'avais l'habitude de voir.
Donc, tu as, disons, des agendas assez chargés.
Oui, je suis une working girl.
Et est-ce que tu as quand même alors, le temps de pouvoir venir un peu ici à Calvi?
Oui, je viens régulièrement parce que j'ai toujours donc, de la famille. Hein. J'ai mon frère, j'ai ma mère maintenant qui s'est réinstallée. Mm-hmm. Et puis, j'ai mon fils qui s'est installé aussi en Balagne. Et puis, je suis attaché viscéralement à cette ville. Hein. C'est, voilà, je ne peux pas me passer de Calvi. Hein. Donc, voilà, oui, je viens en général 3-4 fois quand le Covid me le permet. Là.
La transition, elle a été facile ou pas entre Calvi et la région de Nice?
Bah, Nice, si tu veux, moi j'ai connu Nice il y a 25 ans, donc j'avais des amis, des choses comme ça, oui. Après, le rythme est différent. Nice, ça a pris des proportions. Nice, c'est bien quand tu es retraité ou quand tu es en vacances. Après, pour y travailler, tu as les bouchons, voilà, tu as toutes les contraintes d'une grande ville. Hein. Mmh. Donc après, c'est, voilà, c'est pas le même rythme. Hein. Tu es happé par le. Voilà, par toute cette. Tu as un hyperactif, quoi. Tu deviens hyperactif en fin de compte.
Oui, c'est vrai que vu de loin comme ça. Tu penses à la promenade des Anglais, tu te dis jamais que les gens, en fait, bossent.
Ah, viens à 7h du matin, tu vas voir sur l'autoroute. En plus, la 8, c'est vraiment l'autoroute où tu as tous les. Voilà. Et moi, je suis.
Ouais, tous les départs pour les
tous
différentes
les départs,
régions
tous les entrées,
de France.
Voilà. Ouais. Tu as Nice Antipolis aussi qui prend beaucoup de, voilà, de voitures. Et fatalité, en plus, il y a des travaux entre temps. Ils avaient fermé pour aller à Antibes le bord de mer. Mm-hmm. Donc, si tu veux, ça a été, voilà, 2 heures d'embouteillage tous les soirs.
D'accord.
Donc, c'est compliqué, il faut gérer ça.
Bien, on va faire une petite pause dans cette interview, si tu veux bien. Et après, on parlera peut-être un peu de ton expérience, bah, tiens, par rapport au Covid,
Covid,
et notamment c'est un an, parce que même si on ne s'est pas vu il y a un an, j'imagine que tu as des choses à nous raconter.
Tout à fait.
Une petite pause musicale.
Ouais, avec Jennifer.
Pourquoi pas.
Allez, à tout de suite.
Après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel posé sur ta bouche là. Crois-moi ou pas, je t'emmène revoir le ciel pour te chanter au soleil. Au soleil. De peur de te décevoir, toi qui es mon miroir, je me ferai jolie. des années loin de toi. Si nos cœurs se souviennent de la chaleur humaine, ta main posée juste là. Crois-moi ou pas, on pourrait tout refaire sans regarder en arrière.
Jennifer, comme c'est bon.
C'est vrai que c'est bon.
C'est bien, hein, c'est bien, c'est bon.
Jennifer, c'est le nouveau titre, c'est ça?
Non, c'est l'ancien.
Je suis pas avec lui, Jennifer, je suis désolé. Par contre, ce matin, on n'a pas Jennifer, mais on a Marie-Madeleine Mulchandriani. Et est-ce que tu chantes bien, Marie-Madeleine?
Oh ouais, comme une casserole.
Bon. Alors, je ne te ferai pas chanter, non?
Non, on évite.
Bon, donc on le disait, hein, tu as quitté Calvi il y a maintenant 11 ans, mais tu reviens quand même régulièrement.
Régulièrement, tout à fait.
Tu as quitté Calvi pour ton boulot, donc tu es diététicienne. Tu interviens dans les EHPAD. Et puis, il y a un an, tu as été, comme tout le monde, touché par cette crise du Covid. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience? Comment est-ce que tu as vécu ça en étant en plus donc là-bas, à Nice, enfin de la région, sachant que tu as une partie de ta famille ici, etc., etc.
Alors, ça a été très compliqué déjà parce que personne ne s'y attendait. Et puis, le problème, c'est que nous, on est à Nice, on a un maire qui veut faire toujours plus que le voisin. Donc, si tu veux, toutes les décisions sont toujours disproportionnées. Alors, c'est vrai que nous, en tant que soignants, on nous a mis beaucoup de pression. On n'avait pas forcément le matériel au bon moment, hein, tout ce qui était gants et masques et tout ça.
On a attendu longtemps, c'est ça, hein?
On a attendu longtemps, ça a été au compte-gouttes. Ensuite, comme on nous disait que c'était très virulent comme virus et tout, moi, je travaillais dans les EHPAD, donc on a beaucoup culpabilisé parce que comme on allait à l'extérieur, il n'y avait pas les tests. Donc, c'est vrai qu'on avait peur, voilà. Et quand il y a eu des cas qui se déclaraient, on culpabilisait parce qu'on s'est dit quand mais c'était nous qui l'avait donné, qui l'avait emporté, tout ça. Donc, ça a été très, très dur. Moi, j'avais ma mère à l'époque qui était installée avec moi, la pauvre, donc confinée. Donc, je lui avais prêté mon petit chien à la pauvre pour qu'elle sorte parce que tout le monde n'avait pas d'animaux. Et donc, on n'osait pas. Donc, elle me sortait l'animal. Donc, elle pouvait. Mmh. Et tout ça. Mais donc, j'allais la voir tous les deux jours parce que, pareil, c'était l'état d'esprit de culpabiliser, de le transmettre aux anciens parce que, voilà, ça devait être. Un virus foudroyant chez les personnes âgées. Et on a tous nos parents maintenant, on est la même génération, Anto, on a 40, 45 ans. Et c'est vrai, donc je me lavais à la bétadine un soir sur deux, je me changeais dans mon hall d'entrée, je me douchais, je me rhabillais. Donc ça, moi, j'en prenais une demi-heure pour aller déjeuner avec elle, dîner avec elle, pour pas qu'elle s'ennuie. Donc j'ai passé 6 mois à faire ça, avant qu'on nous dise après qu'il y avait des possibilités et tout ça. Donc très fatigant, très usant. Beaucoup de pression de la part des différentes directions, hein. Et voilà, donc après c'était très très compliqué, et sur le continent c'est encore plus compliqué parce que quand t'es confiné, on te prive d'aller sur le bord de mer, on te prive d'aller dans les montagnes et tu restes chez toi en fin de compte. Donc on n'a même pas d'exutoire, tout était fermé, donc c'est vrai que c'était compliqué, tu vois. Là je viens d'annoncer qu'on va avoir encore 4 semaines, j'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de rester.
C'est sûr, c'est pas
on
n'est
pas motivé, hein, on n'est pas motivé, mais bon, après quand je suis hospitalière, je suis tenu d'aller faire mon travail, hein. Mais c'est vrai que c'est dur, franchement c'est dur.
Et alors c'est dur évidemment. Et comment tu envisages l'avenir, ou en tout cas comment tu ressens les choses à l'heure actuelle en fait? Est-ce que je sais pas sur la gestion de cette crise, etc.
Bah, la gestion de la crise, moi, c'est, je la trouve un peu déplorable, si on peut se lâcher. Voilà, c'est, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait et tout ça. Bon, j'apprends rien à personne. Hein. Et c'est vrai que, bon, la seule solution à l'heure actuelle pour les maisons de retraite, les EHPAD, ça va être la vaccination. Hein, on n'aura pas le choix. Donc, que le, après, le personnel soignant à l'heure actuelle, 70% ne sont pas vaccinés. Donc, on va voir. Hein. Moi, personnellement, j'ai attendu. Alors, moi, je ne me suis pas fait vacciner parce qu'il n'y avait pas assez de doses à, qu'on m'avait proposées et que je me sentais plus de laisser, voilà, personnes âgées. Plutôt qu'à moi qui était âgé de 46 ans, quoi. J'allais pas prendre une dose à la place de quelqu'un d'autre qui est plus âgé. Donc pour l'instant, j'attends. On verra. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va devoir y passer, puisque s'ils mettent en place le passeport sanitaire et tout ça, qu'on va vouloir se déplacer, à un moment ou à un autre, on va être coincé. Donc écoute, je sais pas, on va voir. Mais c'est vrai qu'on a, honnêtement, on n'arrive pas à se projeter, quoi. Moi, j'arrive pas à me projeter. Hein, on subit. Voilà, tous les jours, ben, on attend de voir un petit peu et de voir les différentes stratégies qu'on va nous proposer avec les différents vaccins qui vont être mis en place.
Toi, tu as la chance d'être, disons, soignante, donc tu peux quand même faire des allers-retours.
Alors, on a des cartes professionnelles. La direction nous met à disposition des laissez-passer, entre guillemets, qu'on puisse, parce que ce qui se passe, c'est que le soir, donc, quand on a terminé nos journées, après, on a les réunions spéciales Covid. Donc, on termine tard. Et oui, donc, des fois, on sort,
très compliqué,
on quitte le travail tard.
Beaucoup plus qu'ici. Hein.
Ah oui, 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 oui. Et en plus, donc, là, je rappelle, donc, la spécificité était la personne âgée. Donc, elle est souvent dénutrie, hein, quand on les a, quand ils arrivent, donc il y a la dénutrition et tout ça. Donc il y a un protocole de prise en charge pour les patients atteints de Covid, notamment chez la personne âgée. On doit les enrichir. On leur met une prise en charge avec des aliments enrichis, donc des préparations enrichies, donc la purée enrichie, tout ça, et des CNO, des compléments nutritionnels oraux. Parce que quand on a le Covid, il ne faut surtout pas perdre de poids et surtout pas perdre de masse musculaire.
D'accord.
Alors voilà, donc on gère, donc nos priorités, ce qui veut, on priorise les urgences chez la personne âgée qui a le Covid, et on voit et on les pèse si on peut toutes les semaines. On fait des enquêtes alimentaires, des surveillances alimentaires pour voir si elles s'alimentent bien. Voilà, c'est une vraiment pendant un mois, on est tous aux aguets de voir un petit peu comment se comporte, voilà, comment son organisme se comporte, parce qu'on voilà, notre rôle c'est de les soigner et de préserver leur état général.
Et avec le couvre-feu 18h, j'imagine que c'est compliqué tout ça.
Ah ben on peut pas faire nos courses. Et oui, nous on sort alors avec les bouchons, parce que tout le monde et les pauvres, ils veulent pas se prendre la prune de 135 €. Donc voilà, c'est infernal. On n'arrive jamais à 18h, les grandes surfaces terminent à 17h47, elles n'acceptent plus personne. Donc tu es condamné à faire tes courses le samedi, mais bon, alors on te ferme la promenade, on te ferme la montagne, et par contre on t'autorise à aller te faire un collet serré à la grande surface. Donc c'est aberrant, voilà. Donc moi j'ai fait la connaissance du drive.
Eh oui.
Oui, ça a développé le drive, comme ça, eh ben, on voit personne et on perd pas de temps, hein, parce que c'est vrai que quand tu arrives le samedi, tu n'as pas envie de, voilà, tu as envie, c'est une corvée, hein, aussi de faire les courses, hein. Donc, je fais le drive pour éviter de côtoyer trop de personnes et de se préserver, parce que notre rôle, c'est de pas amener le virus.
Évidemment, ouais.
Et de contaminer, en fin de compte, le personnel avec qui nos collègues, et de contaminer surtout les résidents.
Oui, surtout que c'est une population quand même qui est à risque.
C'est ça.
Par
c'est
rapport
ça.
Aux jeunes.
Ah oui, eh oui. Oui, oui, oui. Donc, on évite, voilà, on est. Donc, c'est vrai qu'on est toujours, toujours sous pression.
Tu parlais voilà. Du drive. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce d'économie du net qui finalement s'est développée. Ouais. Justement, toi, est-ce que tu penses que. Alors, on sait évidemment pas quand que tout ça va s'arrêter, mais en tout cas, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce d'évolution dans la mentalité des gens? Est-ce qu'ils vont. Par exemple, ici, on a eu beaucoup de producteurs qui vendaient leurs produits. Est-ce que.
Ah oui,
rencontres aussi à Nice?
Mais, alors, moi, personnellement, on m'a demandé de faire des consultations via Internet, via WhatsApp, Skype et tout ça. Je pense que ça va être une alternative. De toute façon, on ne va pas avoir le choix. Hein. Nous, on est condamnés à s'adapter. Bon, alors, moi, j'ai la chance par rapport à mes autres collègues qui sont en libéral pur. Moi, je suis en grand 90% hospitalière. Mais je ne te cache pas que j'aurais été 100% en libéral, je crois que j'aurais pu fermer le cabinet, hein, parce que c'est très très compliqué. Hein. Donc on va devoir s'adapter. Moi, j'espère que d'ici le mois de juillet, ça va rentrer un petit peu dans l'ordre et que ça va nous lâcher un petit peu, voilà, qu'on va pouvoir vivre entre guillemets un petit peu normalement. Apparemment, ce virus, avec la chaleur, avec la température, il est moins réactif.
On l'a vu en tout cas les derniers.
Voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir. Après, je te cache pas que quand tu regardes un peu les médecins, les professeurs et tout. Tout le monde ne dit pas la même chose. Moi, je me rends compte que certains professeurs, notamment, on ne peut pas le citer, le professeur Raoult, avant, tous étaient c'était des professeurs éminents, connus mondialement, et du jour au lendemain, on les fait passer pour des charlatans. Tu vois, c'est pas normal que des gens qui ont été reconnus toute leur vie, avec des discours cohérents et tout ça, là, parce qu'il y a eu une crise de Covid et que son traitement coûte 4,30€ à la place de 100€, 450€, tu vois, et on les fait passer pour des charlatans. Je trouve que c'est pas logique. Donc ça perturbe tout le monde, même nous, hein, ça nous perturbe. Hein. Moi, je sais pas un peu sur quel pied danser. Je sais, si tu veux, le travail que j'ai à faire dans les EHPAD, ça je sais. Mais après, pour me projeter tout ça, c'est compliqué. Par contre, ce que je remarque, tu vois, on n'a pas eu forcément tous les moyens qu'on nous avait promis et tout ça. Eh bien, tu peux pas savoir, le personnel soignant, cette capacité d'adaptation qu'ils ont fait, cette solidarité qu'on a eue avec mes collègues et tout ça, ça c'était beau. Voilà, ça, ce côté-là solidaire, de s'adapter, de toujours, c'était le système D, hein, on essayait de mettre en place, ça c'était magnifique, ça c'était bien. Voilà, ça a créé vraiment cette solidarité avec certains membres du personnel soignant qui vraiment nous fera de très très bons souvenirs à terme.
En tout cas, on aura quand même noté par rapport à cette crise, et je pense que c'est un peu partout, en tout cas en France, c'est que finalement l'humain s'adapte quand même assez facilement à une situation qui au départ était quand même assez, enfin,
oui,
très compliquée, quoi.
Très compliqué.
Quand c'est arrivé, je veux dire, à un moment donné,
si tu veux survivre, tu es obligé de t'adapter, hein, sinon c'est voilà. Et puis en plus, comme en France on a de moins en moins de moyens, je te parle pour le public, hein. Moi j'interviens dans des hôpitaux publics, hein. Quand normalement on a une obligation de moyens, mais tu sais que les effets d'annonce et la réalité du terrain, il y a toujours un décalage. Donc on te balance des informations et puis c'est pas vrai quand tu es sur le terrain. Donc si tu es obligé, parce qu'on traite ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, surtout nos politiques. Alors moi je parle pour les politiques de Nice, hein, puisque je dépends de Nice. C'est de maintenant.
Eh oui, d'Antibes. Niçoise maintenant.
Voilà, quoi, niçoise, ouais, mais mon cœur est à Calvi. Mais c'est que, si tu veux, on traite des humains, on traite pas des conserves, on traite pas des arbres, on traite pas des plantes. Les personnes âgées, c'est nos anciens, on leur doit le respect parce qu'ils ont tous des histoires différentes. Et bon, après, c'est la culture méditerranéenne, hein, d'avoir le respect des anciens. Et voilà, et on peut pas, on est obligé de tenir. Et on est obligé de les prendre en charge. Donc, avec les moyens qu'on nous donne. Donc voilà, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. J'espère qu'on va nous donner plus de moyens. Si on avait fermé moins de lits, eh bien, peut-être qu'on n'en serait pas là.
Bien sûr, ouais.
Je crois que c'est le cumul aussi des erreurs d'il y a 10 ans qu'on paye, hein. Ces fermetures de lits. Parce que les chiffres, c'est bien beau. On te dit qu'ils sont en saturation. Ah, mais une saturation sur 10 lits ou 20 lits et une saturation sur 100 lits, c'est pas pareil.
C'est clair.
Si tu fermes des lits, la saturation va arriver plus vite, hein. Et ce qui s'est passé en France, hein. Alors maintenant, ils te parachutent à droite et à gauche. Le problème, c'est que quand les gens te disent que le diagnostic il est pas bon, la famille, eh ben moi je me mets à la place d'eux. Tu n'as pas envie que ton membre de ta famille, ils partent à 500 km. Surtout quand ils sont décédés, on n'a pas pu faire assister aux enterrements les membres de la famille, quoi. Ça a été horrible. Franchement, ça a été horrible. Voilà. Donc là, je pense que maintenant les gens, on a eu une expérience de dernière année, on ne fera pas les mêmes erreurs cette année-là. Hein. Donc voilà, donc, il faut qu'ils changent de stratégie.
Oui, puis on a le sentiment quand même que les gens, je dirais, ce n'est pas qu'ils l'acceptent mieux, mais en tout cas, les gens le vivent quand même mieux.
Mais ils sont dans la résilience, hein, aussi, hein, tu sais. Après, voilà, on a l'expérience de l'année dernière. On a vu que, voilà, il y avait quelques protocoles et procédures à suivre. Mais bon, oh, Simaï, on est comme il y a un petit sketch. Parce qu'avant, il y avait la pénurie, quoi. Voilà, il y avait pénurie du PQ. Maintenant, on est au bout du rouleau, quoi.
Tu as vu cette image? Pas mal, le genou est pas mal.
On est tous au bout du rouleau, quoi. On est fatigués.
Il y a même un mec qui a fait c'est un mec de Bastia qui a fait une vidéo où, en fait, il a fabriqué un gâteau d'anniversaire en PQ.
Oui, tu as vu, avec ce que tu veux. Non, mais il faut, voilà, franchement, le personnel soignant et même les gens qui, même les restaurateurs, les pauvres, tu t'en rends compte.
Ah oui, non, quoi, c'est très dur.
C'est hallucinant. Et les théâtres et tout. Alors que c'est prouvé qu'au cinéma et au théâtre, s'il y a bien un endroit où c'est bien régulé, où c'est bien protégé, où c'est bien surveillé, c'est bien le théâtre et tout ça. Hein. Et on nous enferme, en fin de compte, on devient bientôt on va devenir tous des neuneux, quoi. On est... c'est pas ce qu'on regarde à la télé que... Bon, il vaut mieux écouter la radio, notamment RCC.
Tout
hein.
À fait.
Radio culturelle. Et...
Tu as vu, hein. Tu es bien, tu vas boire un café.
Tu as vu comme je suis détendu.
Hein, voilà, tu vois. On peut parler de sujets graves tout en étant détendu.
Il faut. Si, tu sais, l'important, c'est de rire en tout. Ouais, hein, parce que si on rigole pas, si on n'est pas entouré de sa famille, de ses amis, de gens bienveillants, je peux te dire, c'est dur hein, de passer cette crise. Hein. Non, il faut garder le moral, il faut garder l'espoir. Hein, parce que sinon, l'être humain, s'il n'a pas d'espoir, eh ben, on ne vit plus. Et puis, je pense que ça va s'arranger. Quoi. Moi, je veux, j'espère vraiment. Et puis, j'espère que la Corse fera une belle saison. Si Air Corsica est
la France.
Et non, Air Corsica et Corsica Ferry jouent le jeu parce que l'année dernière, ça a été folklorique. Hein.
Mais est-ce que tu as vu ce matin la publication du Parisien qui annonce des 640 euros pour faire un Paris-Bastia.
Non, c'est pas possible.
Oui, je t'assure.
Non, mais c'est le prix pour aller à New York ou un...
Une fois que Jean Castex s'est exprimé, donc hier soir, les standards de la SNCF ont explosé. Il y a plus de place, enfin il y a plus de train, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est à partir de minuit hein, l'histoire du
confinement. Oui, c'est ça.
D'ailleurs, comment tu vas faire pour rentrer? Tu vas rentrer, toi?
Tu rentres
en minuit, c'est ça?
C'est ça, moi je rentre en pédalo.
je
rentre dimanche.
Et Air France, donc à... D'un seul coup, les prix se sont envolés, tu vois.
Ouais, mais ça,
ils auraient pu faire un beaucoup de com en disant avec Air France, envolez-vous, non? Là, c'est les prix qui s'envolent.
C'est fou. Alors,
642 euros.
Non, moi, j'espère que c'est la gestion des voitures de location. Comme l'année dernière, tu sais que je suis venu 3 semaines. L'année dernière, oh, pas impossible de trouver une voiture de location parce que tout était à Marseille ou à Nice. Donc là, j'espère qu'au mois d'avril, ils vont anticiper parce que je pense que la saison, les gens vont venir en Corse. Alors, c'est vrai qu'ils vont peut-être se décider au dernier moment, mais la Corse et la Bretagne sont deux régions très prisées.
Tout à fait.
Hein, et comme on n'est pas sûr de pouvoir partir en Europe, je pense que ça va être une région prisée.
Écoute, alors, je peux te dire une seule chose, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'appels en direction de l'Office de tourisme de Cali.
Ah, pour
les gens, écoute bien ce que je te dis, à l'heure où je te parle, les gens ne trouvent plus de place dans notamment les mobiliums, dans les campings. Il n'y a plus de dispo. Complet de chez
donc
complet.
Donc ça prouve que cet été, on va faire une belle saison.
À mon avis,
il faut se donner les moyens de bien les recevoir.
Tout à fait.
Et notamment les voitures de location.
Et oui, parce que sans voiture de location, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, ou te proposer des voitures à
pour 400... aller au Calanque de Piana. Tu peux y aller à pied, hein, mais
et
attention.
Non, tu prends les ânes.
À la nage aussi, tu peux.
Oui, et après qu'on ne te fasse pas, parce que c'est l'offre et la demande, qu'on te fasse la journée à 200, 400 euros, hein, si mal.
Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et d'ailleurs, il y avait un constructeur chinois qui avait lancé un 4x4. L'année dernière, tu te rappelles?
Ah, non.
Bah, en fait, c'était une marque inconnue au bataillon, pour nous, occidentaux.
D'accord.
Il y avait un constructeur chinois qui avait mis en place, je crois, 400 ou 500 véhicules à la disposition de la location.
C'est génial.
Voilà, et c'est comme ça qu'on a découvert un 4x4. À chaque fois, je me dis, c'est quoi cette voiture? Et après, j'ai compris que c'était le fameux 4x4 dont on parlait.
Ah, mais qui est arrivé encore, c'est-à-dire qu'il a été livré encore.
Oui, pour la location de voiture.
C'est excellent.
Voilà, donc
excellent.
À mon avis, ils sont en train de préparer, hein, je pense. Hein,
bah, mais tant mieux, parce que voilà, à partir du mois d'avril, ça serait bien qu'on ait le parc automobile que.
Bah, d'autant plus que le mois d'avril, c'est dans deux
et
semaines.
Et regarde, on est au mois de mars.
Oui,
dans 10 jours.
Dans 10 jours.
Donc, quand même, tu nous tiendras au courant et je t'écouterai de Nice.
Ça va. Bon, dernière chose à rajouter, quelque chose. Enfin, tu voudrais un petit mot le mot de la fin, c'est quoi pour
Marie-Madeleine? Gardez bien le moral, on va s'en sortir. Et voilà. Et puis, j'ai été très contente de venir vous un petit coucou.
C'est cool.
Hein, je me rappelle de l'époque où on faisait nos émissions hebdomadaires, bi-hebdomadaires. Non, pas bi-hebdomadaires, toutes les semaines.
C'est ça.
Et une fois par mois, après un moment, on avait fait et on faisait pour la Noël et pour le Nouvel An. Tu t'en souviens?
Ah oui, le fameux menu.
Avec les fameux menus où je calculais les calories et on faisait appeler les gens pour savoir s'ils
pouvaient. Des fois, je pense à toi. Tu sais que quand je mange du foie gras, je pense à toi. Bon, j'en mange qu'à Noël. Hein, et
alors, tu sais que maintenant, il vaudrait mieux que tu manges du foie de morue. Tu sais pourquoi? Parce que c'est riche en vitamine D.
Et en oméga, non?
Et en oméga, mais surtout la vitamine D. Et tu sais que la vitamine D, hein, on est tous anémiés. Hein. Tu sais pourquoi on est anémiés en vitamine D? Alors, je t'explique. Alors, après, les dermatos, ils n'ont pas tort. Hein. Tu sais qu'avec le cancer de la peau et tout ça, on doit se tartiner d'écran total. Et on porte des t-shirts, tout ça.
Oui.
Et donc, on ne peut pas synthétiser la vitamine D, hein, puisque c'est le soleil qui la synthétise. Et aussi, on consomme des produits tous allégés. Alors, soit les demi-crémés, soit 0%.
Moi, pas trop allégé. Hein.
Et la vitamine D, elle est dans le lait entier et dans le fromage et
c'est
tout ça.
C'est pour ça que je mange du fromage et que je bois du lait entier. Je comprends. Donc, si j'avais une carence.
Toutes ces sources, comme on les consomme moins, ouais. Et on est tous carencés. Ouais. Et la vitamine D a un rôle important dans notre système immunitaire. C'est pour ça que nos grands-mères nous donnaient la cuillère à soupe ou de café d'huile de foie de morue.
Bien.
Donc, remplace-moi le foie gras, pas de foie de morue, sur des tartines avec du citron.
Bon,
ça serait
je vous
pas
dois
mal.
Combien, docteur ?
Rien du tout. Pour toi, c'est cadeau.
Et alors, simplement, petite pub, donc ton cabinet se trouve où à Nice exactement ?
Alors, je suis quartier Cocade, donc c'est au-dessus de la petite colline, c'est un très beau quartier.
Oui.
Et je suis sur la rue Alphonse Ier, au 23 rue Alphonse Ier.
Oui.
Je suis à 7 minutes de l'aéroport et 20 minutes du port.
Ah bah c'est pratique ça, quand on arrive.
Sortie des autoroutes, vous montez sur la petite colline tout droit, vous faites
d'accord.
Tout chou.
Le téléphone ?
0607 81 29 61, je répète 0607 81 29 61 et j'ai un mail si jamais, donc c'est Musson en miniature point Andreani, j'ai pas mis le E, @gmail.com.
D'accord.
Voilà.
Eh ben écoute, merci d'être venu.
Mais à la prochaine,
sur RCC,
hein, à la prochaine.
Ce matin. L'émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur notre site web. Et puis, on te fera une petite promo pour le cabinet.
C'est
également.
Gentil, c'est adorable. Merci beaucoup.
Merci
pour votre accueil.
Merci Marie-Madeleine. Et à très bientôt. Et tu viens quand tu veux, car ici, tu es chez toi.
C'est gentil,
Disait Dalida. Voilà.
Yes. Merci.
Allez. Ciao.